suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Nous sommes lundi matin, le premier lundi du mois, et comme tous les premiers lundis du mois sur les ondes de Radio Campus 106,6, eh bien c'est l'heure de tous essentiels avec Virginie ce matin. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Bonjour Max, et toi ?
Ben oui, très bien, très bien.
Es-tu essentiel aujourd'hui ?
Eh bien je l'espère, en tout cas je suis derrière les manettes.
Un essentiel bénévole.
Exactement.
Merci, merci d'être là, et merci aussi, on va accueillir Léa aujourd'hui. Bonjour Léa.
Bonjour.
Te sens-tu essentielle aujourd'hui ?
Oui, toujours. Moi, je suis toujours essentielle. Pas indispensable, mais essentielle.
Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Alors Léa, alors j'ai prévu de te présenter très rapidement avant notre petite question. Donc tu es d'abord pour moi la coordinatrice nationale de Génération.1, donc ce parti lancé par Benoît Hamon. Et donc à ce titre déjà, tu serais bienvenue parce que Benoît Hamon, c'est quand même celui qui a présenté une version du revenu de base le plus haut dans notre hiérarchie démocratique. Mais on a déjà reçu ceux du groupe local qui nous ont présenté, qui sont venus nous parler du RUE. Donc là, tu es là avec ta deuxième casquette qui est d'être adjointe à Paris. Alors attention, chargée des solidarités, plus de la lutte contre les inégalités, plus de la lutte contre l'exclusion. Rien de moins.
Donc, rien oublié.
Bah écoute, on va d'abord te poser la question. Toi, en tant que... Donc, c'est Léa Filoche à Paris. Là, tu seras Léa. En tant que Léa, imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte. Il n'y a rien à faire. C'est jusqu'au bout de ta vie. Et en fait, tu en fais ce que tu veux, quoi. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Eh bien, c'est une belle question, parce que justement, comme ça n'était pas le cas jusqu'à demain, donc, je ne me suis jamais posé trop cette question. Donc, déjà, je prendrais le temps de réfléchir à répondre.
Déjà, tu pourrais prendre ce temps-là, effectivement.
Exactement. Ça me donnerait déjà envie de me poser, de faire un point avec moi-même, avec mon mari, avec mes enfants, avec ma famille, de voir ce qu'on a envie de faire ou pas. S'il y a des choses qui vont dans le même sens ou s'il faut négocier pour voir pour pouvoir prévoir la suite. Et moi après dans mon monde idéal, j'avoue je continuerai de travailler, ça c'est certain. Je suis de formation initiale d'assistante sociale. Et là pour l'instant j'ai pas d'activité professionnelle parce que je suis élue à temps plein, mais je continuerai de travailler, mais peut-être pas à temps plein. Peut-être que je serai un temps moins chargé, hein, des semaines de 3 jours ou de 4 jours, pour avoir du temps pour faire d'autres choses. Alors, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de passer le permis de conduire. Ouais, c'est la vie des Parisiens, on n'a pas le permis. Même à 45 ans, j'aurais envie éventuellement, peut-être reprendre des études sur une branche de métier qui n'est pas du tout celle dans laquelle je suis aujourd'hui, mais qui m'a toujours assez passionnée, qui est la question de l'urbanisme.
D'accord.
Et puis surtout avoir du temps pour moi, quoi. Avoir du temps pour me balader, pour me promener, pour flâner, pour me reposer. Voilà. Ça, c'est pour moi une grande envie. Et même si je sais que l'âge de la retraite est repoussé de oui. gouvernement au gouvernement, c'est un temps, je trouve, qui est précieux d'avoir le temps pour soi et pour ceux qu'on aime.
Je te remercie pour ta réponse parce que en même temps elle recentre sur l'individu de dire ok ben ralentissement, pause, concentration, recentration et recentrage, je ne sais plus comment on dit, et voilà, de retrouver ton rythme et ce qui est bon pour toi. Et en même temps, très vite, tu as élargi à ta cellule familiale. Et puis très vite, tu nous parles d'urbanisme, etc. Et donc finalement, on voit comment un revenu de base, j'utilise ce terme générique, peut en même temps aider en termes individuels, mais aussi sur chaque périmètre de notre vie, finalement, chaque périmètre communautaire jusqu'au périmètre national. Donc, merci pour ça, pour ce témoignage riche. Et on te souhaite d'avoir un jour ce temps. En attendant, on va exploiter quand même ton travail d'adjoint à Paris, pour te questionner un petit peu, parce qu'il paraît qu'il y a une expérimentation en cours possible à Paris, bientôt peut-être. Juste une petite précision, parce qu'on a déjà, eu des élus Génération.S, et on a aussi eu Clément qui nous a parlé déjà un peu d'expérimentation, donc lui à Grande-Synthe, et où il a été question notamment des difficultés d'enclencher une expérimentation dans un cadre légal qui, et c'est très bien aussi, veut que tous les citoyens soient traités à égalité devant la loi et notamment devant l'impôt. Mais il y a une particularité à Paris, c'est que c'est en même temps une ville et en même temps un département. Donc je le précise tout de suite parce que ça va sans doute être important à un moment donné dans ta présentation. Donc, pour que nos auditeurs puissent situer un peu cette expérimentation qui est un peu particulière. Donc, on t'écoute, fais-nous rêver, mais concrètement, d'accord ? On est dans les utopies réalistes, là.
Donc, je suis plutôt partie d'une idée concrète. D'une utopie qui doit donner une idée concrète. Donc l'utopie, c'est de changer un peu le prisme de la question, l'action sociale en France, qui est plutôt celle de la quémande, c'est-à-dire qu'il faut demander une aide sociale pour pouvoir en bénéficier. Il y a très peu d'aides qui sont versées automatiquement. Or, moi, je pense que cette démarche-là, on doit pouvoir s'en passer pour pouvoir d'abord assurer que elle soit vraiment universelle, l'aide sociale, et qu'elle permette à tout le monde de pouvoir en bénéficier, quel que soit le contexte dans lequel il se trouve, quelles que soient les difficultés qu'il puisse avoir, y compris aujourd'hui dans la dématérialisation des démarches administratives. Je pense aussi qu'on doit pouvoir s'en passer parce que ça modifie ou ça inverse, on va dire, la charge de la preuve. Donc c'est les collectivités ou l'État, ça dépend quel niveau on se pose, et on se place qui lui fait la démarche de dire vous êtes dans cette situation, donc vous avez le droit de ceci, le droit de cela, et ça change beaucoup les choses. Et puis aussi ça permet, et ça aussi c'est dans l'utopie d'un revenu universel, aussi de pouvoir encore une fois ne pas avoir à raconter ou à justifier sa situation, sa vie, son quotidien devant des inconnus, aussi bienveillants soient-ils, hein, j'ai beaucoup de respect pour les travailleurs sociaux dans leur ensemble, mais le fait d'avoir à raconter à chaque changement de situation ou à chaque changement de domicile ou à chaque changement de situation professionnelle, personnelle, etc., on change d'interlocuteur, il faut re-raconter toute sa vie, c'est pas évident et ça crée du non-recours. Et donc, on est parti de cette idée-là, de lutter contre le non-recours au droit, d'essayer de changer un peu le rapport des personnes, des individus, à ce qu'est le système social, et puis aussi, encore une fois, de tester des choses qui peuvent être utiles, de tester des choses localement, qui peuvent être utiles ensuite à faire émerger un projet complètement différent autour de la question du revenu de base, du revenu universel. On peut lui donner le nom qu'on veut à ce stade. Je pense que c'est pas gênant. Donc voilà, donc ça c'est notre plan. C'est pas facile à faire parce qu'effectivement, on l'a vu dans les quelques collectivités ou dans les quelques régions ou quelques pays qui ont pu le tester ici et ailleurs, parce que on vient quand même percuter un système qui est dans la justification permanente, dans le pognon de dingue qu'il faudrait pas dépenser pour acheter un écran plat. Voilà. Et il y a cette idée-là reçue qui est très malheureusement qui est très répandue, qui voudrait que les personnes qui ont besoin, à un moment donné, soit à un moment de court, soit à un moment long, mais qui ont besoin d'un soutien ou d'un accompagnement à un instant T, profiteraient du système pour pouvoir se faire plaisir. Alors, franchement, moi, je suis très, très opposée à ça, et je le dis avec des petits mots, mais ma détermination est vraiment...
On entend la rage derrière et le
contre la justice. Très, très fort. Personne ne profite d'un système social. Alors, il y a des cons, il y en a partout, à tous les niveaux, évidemment, mais c'est très, très loin d'être la règle. Et puis, parce que c'est pas voilà, j'ai confiance en la nature humaine en général. Personne non plus ne traverse la moitié de la planète au risque de sa vie pour pouvoir bénéficier d'une allocation ou de l'ouverture d'un gymnase pour un hébergement d'urgence. Tout ça est ce sont des fantasmes et des idées reçues qui sont colportées par des des gens qui veulent diviser la société, qui veulent culpabiliser, qui par ailleurs ne se préoccupent pas du tout de savoir que ceux qui aujourd'hui ont plus de moyens en ont toujours un peu plus. Et ça, visiblement, ça ne gêne pas ces personnes-là qui colportent ces idées reçues sur les personnes les plus précaires, ou alors celles qui cherchent à un moment donné encore une fois refuge ou soutien pour un accident de parcours, un accident de vie. Donc je suis en tant qu'élue à la fois présidente d'un CCS, donc le CCS de Paris, qu'on appelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris, et à la fois vice-présidente du département de Paris en charge du RSA et de l'insertion. Donc ça permet d'avoir une vision à 360 de la question de l'accompagnement social dont les missions sont confiées aux collectivités locales. C'est très très intéressant sur un même territoire, très complexe, Paris, avec beaucoup d'inégalités, beaucoup de ségrégation, beaucoup de non-recours, beaucoup de turnover avec des gens qui viennent, qui repartent, des gens qui connaissent des moments fastueux et des moments plus douloureux dans une même dans une même tranche de vie. Mon idée, honnêtement, c'était portée par la maire de Paris et par l'exécutif, c'était de tester quelque chose qui nous permette d'être utile sur la question d'un revenu universel. Alors, avec des moyens qui sont encore un peu en discussion et parce que forcément un peu limités, hein, c'est pas vrai qu'on va mettre le revenu universel à Paris. On va faire une expérimentation sur une typologie de public avec des moyens qui ont leurs limites. Donc forcément, ce sera critérisé. Donc on n'est pas tout à fait sur l'universalité, forcément. Mais on va tester quand même. Notre plan, c'est par l'intermédiaire du Centre d'action sociale de la ville de Paris, on a ce qu'on appelle les aides sociales municipales. Et par l'intermédiaire du département, on a ce qu'on appelle le fonds d'aide aux jeunes. Donc tout ça fait une somme assez importante quand on mutualise tout ça. Hein. Ça fait 200 millions d'euros à peu près par an. Donc ces aides sociales municipales, elles ont quand même des objectifs aujourd'hui qui sont de venir accompagner des publics qui ont déjà des aides sociales légales, et nous on vient compléter ces aides sociales légales par des aides sociales municipales. Les personnes avec des familles nombreuses, les personnes en situation de handicap, les personnes plus âgées, les seniors. Donc ça, c'est ça qu'on essaye de faire avec ces aides sociales municipales. Et on s'est rendu compte que ces aides sociales municipales, elles étaient d'abord très discriminantes parce qu'il faut vraiment les réclamer, les renouveler chaque année, justifier, surjustifier. Et aussi parce qu'elles ne concernent que ces publics-là. Elles ne concernent pas les personnes isolées qui ne sont pas en famille ou qui ne sont pas en situation de handicap ou qui n'ont pas plus de 65 ans. Alors qu'en vérité, les Parisiens, c'est plutôt ça. On a plutôt des Parisiens qui ont entre 18 et 45 ans, 50 ans, qui sont seuls. Qui n'ont pas de charge de famille particulière, qui sont, encore une fois, dans une classe moyenne, mais qui est frappée de plein fouet par les effets de la crise sociale, de la crise économique, de l'inflation, de l'augmentation du coût de la vie en général et du fait que les salaires n'augmentent pas, et donc qui sont justes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un accident de parcours, ça peut être un licenciement, ça peut être une maladie, ils connaissent tout de suite des risques de chuter dans la précarité de manière rapide et brutale. Donc là, c'est là qu'on a des filets qui ne sont pas aujourd'hui adaptés à ces publics-là, et c'est comme ça qu'on essaye donc de réfléchir depuis 3 ans à quel dispositif, tout en maintenant les aides sociales municipales pour les publics déjà ciblés par eux, essayer d'agrandir le champ de nos interventions pour les publics seuls, et donc en augmentant le montant global de nos aides sociales municipales, et aussi en essayant de changer un peu le prisme. Aujourd'hui, on a un prisme par typologie de public. Notre plan, c'est de rentrer par un prisme de temps de vie qui change beaucoup de choses.
C'est-à-dire ?
Donc on va modifier, on va répartir des aides sociales municipales qui auront vocation à s'adresser aux personnes seules, aux personnes domiciliées, de pouvoir donc les traduire en 3 temps. Le coup de pouce, donc là on a un petit accident de parcours, un petit moment un peu plus compliqué, une baisse de salaire encore une fois, ou quelque chose, un troisième enfant qui arrive, ou bien tout simplement un passage à la retraite un peu plus compliqué, on peut intervenir assez facilement, assez simplement. Et y compris il y a un système d'aide qu'on doit pouvoir même automatiser en partie, notamment je pense aux questions d'aide à l'énergie, au paiement de factures d'énergie, où en en vérité, on sait exactement quelles sont les situations des personnes sur leurs ressources, et donc on doit pouvoir, en y mettant des plafonds, on doit pouvoir venir accompagner des personnes, qu'elles soient seules ou en famille, sur des aides à l'énergie, sans qu'elles aient à se justifier trois fois ou quatre fois, ou sans qu'elles reçoivent un chèque qu'elles ne comprennent pas ce que c'est et que donc elles ne sont pas déclenchées. Ensuite, on a le coup de main. Là, il y a peut-être un truc un peu plus compliqué. La personne rencontre un temps de vie un peu plus complexe, et donc elle rencontre une assistante sociale. Et là, il y a un accompagnement à court terme qui peut se mettre en place pour essayer d'accompagner la personne dans ce moment plus compliqué. Puis le coup dur, où là, peut-être il faut mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec un accompagnement plus renforcé. Ça peut être dans la protection de l'enfance. Ça peut être encore une fois, un accident de parcours grave, quelqu'un qui devient handicapé ou quelqu'un qui perd en indépendance et donc qui tombe dans la dépendance. Voilà. Il peut y avoir tout ça. Et là, ça demande un peu plus de travail, un peu plus rigoureux. Et il y a des aides sociales municipales qui sont aussi disponibles pour ces temps-là, mais qui doivent pouvoir être assurées avec des professionnels de l'action sociale qui accompagnent la personne ou le ménage dans ce moment plus complexe. Et voilà. Et tout ça doit permettre de travailler sur des aides qui doivent pouvoir être automatisées. Alors, je parlais des aides à l'énergie, mais on a aussi des pistes pour les deux autres temps, les coups durs et les coups de main qui doivent pouvoir être automatisés, et où la première demande doit être faite, et puis ensuite le renouvellement en fonction de la situation, encore une fois, de la personne que nous contrôlons, doit pouvoir être fait sans démarche particulière de la personne. Et puis ensuite, on a en plus, parce que je suis ambitieuse, on essaye de regarder comment est-ce qu'on peut accompagner un certain nombre de jeunes de 18 à 25 ans, donc avant ouverture de droit au RSA, qui seraient soit dans un foyer de cohabitation, soit dans une insertion professionnelle qui met un peu de temps, qui est un peu longue, soit dans une formation initiale en études, qui peut parfois être un peu long. En tout cas, de venir essayer d'avoir un panel de jeunes de 18 à 25 ans qui puissent couvrir l'entièreté des possibles de ce qu'on est entre 18 et 25 ans. On peut être en études, on peut être en insertion pro, on peut être en galère. On peut avoir connu beaucoup d'échecs aussi. Il y a toute la question des jeunes sortis de prison ou des jeunes sous main de justice en général. Il y a tous les sujets des jeunes décrocheurs. Bon voilà, on a tout ce panel-là de ce qu'est la séquence d'âge 18-25 ans, auquel aujourd'hui il y a peu de droits. Alors il y a quelques bourses par-ci par-là, mais ça reste très à la marge. Et donc de venir essayer de compléter l'existant, parce qu'ils ont des droits, donc on peut essayer de venir compléter l'existant pour arriver à des ressources qui leur permettent de pouvoir, un peu ce que je disais tout à l'heure, prendre le temps de se poser, prendre le temps de faire le point, prendre le temps, avoir le droit de l'échec, avoir le droit de la réorientation, avoir le droit de... Voilà, essayer d'avoir un peu de pause dans ce monde qui est quand même pas très compatible avec la pause ou le prendre le temps. Et donc... Et puis observer ce que ça donne. Est-ce que ça permet à des jeunes de pouvoir se réorienter ou s'insérer de manière plus durable? Est-ce que pour ceux qui auraient été dans l'échec, est-ce que ça leur a permis de sortir de l'échec? Est-ce que ça modifie leur rapport à l'institution en général? Parce que souvent, il y a de la défiance vis-à-vis des institutions. Est-ce que ça modifie ça? Est-ce que ça modifie leurs liens sociaux, au sens très large du terme, avec leur famille, leurs amis? Est-ce que la décohabitation avec la famille peut se faire mieux? Tout ça, on a très envie de l'observer à l'aune de ce dispositif. Encore une fois, sur un format expérimental, donc sur un nombre de personnes qui n'est pas encore arrêté, mais qui sera forcément un peu restreint, mais qui se veut essayer d'être représentatif de ce qu'est la jeunesse entre 18 et 25 ans à Paris.
Ce que j'entends, c'est que c'est effectivement très ambitieux, parce que merci pour tous ces exemples, parce que ça nous permet au passage de se rendre compte que n'importe qui peut du jour au lendemain avoir des difficultés, alors parce que inflation, etc., mais aussi accident de la vie. Donc en même temps, il y a une sorte d'universalité parce que vous avez envie de toucher un peu tous les publics, en même temps avec une sorte de réactivité en termes de temps et d'ajustabilité en termes de situation. Donc, il y a quelque chose de... Oui, d'ambitieux dans et le périmètre, alors peut-être pas en, en nombre de personnes, mais en tout cas en, en diversité. J'ai entendu aussi le respect de la personne et de sa situation pour être au plus près de son vrai besoin. Quelque chose de très rapide, parce que voilà, les coups de main, qu'ils soient durs ou ponctuels, ben, il faut aller vite, quoi. La personne a faim, la personne est dehors, etc. Et en même temps, quelque chose qui prend un certain temps, qui offre du temps, ne serait-ce que parce que c'est automatique, parce qu'il ne faut pas renouveler, etc. Je pense aussi à la charge mentale que ça pourrait soulager, qui pourrait être intéressante à calculer aussi. Donc voilà. Donc là, tu nous as montré un petit peu que c'était crédible dans ce contexte-là. Très ambitieux, mais alors très concrètement, ça pourrait ressembler à quoi ? Oui, et juste, je voulais rajouter aussi un point qui m'intéresse dans ce que tu présentes, c'est l'articulation très régulière que tu as faite entre les aides, mais aussi l'accompagnement, quoi. C'est pas une aide, c'est souvent reproché aux revenus de base, de dire, voilà, on vous donne de l'argent et puis vous arrêtez de nous faire chier, quoi, en gros. Là, il y a vraiment une reconnaissance du côté humain, de l'accompagnement psychologique, social, et tu as parlé aussi de toute une équipe si besoin. Donc, c'est pas incompatible et que c'est pas parce qu'on essaye d'aider aussi financièrement, parce que c'est une, voilà, je pense que c'est une sécurité, mais aussi de la dignité de laisser à la personne le choix de ce qu'elle va faire avec cet argent-là, parce qu'elle est la plus experte de sa vie, quoi, quelque part. Et en même temps, un accompagnement pour s'y retrouver dans le maquis, peut-être d'autres aides ou d'autres partenaires. D'autres... Donc, c'est très, très riche tout ce que tu nous as dit. Et du coup, ce que je propose, une petite pause pour laisser digérer tout ça, et puis après on ira dans le concret.
Voilà, et on va mettre une chanson de Romain Dudek qui s'appelle Les salauds pauvres. Vous noterez peut-être légèrement, mais l'ironie. Bon, voilà, l'ironie de l'histoire. Hein. Allez, c'est parti.
Décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société. Vous ne voulez pas travailler, vous avez été rejeté par la société.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6, mais également sur le www.campuslille.com où vous pourrez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres en podcast depuis 2 mois. Et ça, c'est tout à fait génial. On est toujours pour tous essentiels, donc avec Virginie.
Et on peut même rajouter que toutes ces émissions, grâce à Radio Campus, vont se retrouver aussi sur le site revenudebase.info. Donc même si vous avez raté celle d'il y a 3 ou 4 mois, vous pouvez les retrouver aussi sur la page du site. Alors, Léa, maintenant que tu nous as alléchés avec toute cette ambition, tous azimuts, et qui pourrait faire tellement de bien à tellement de gens, est-ce que tu peux nous préciser, parce qu'on rappelle que c'est une expérimentation par rapport au périmètre de la ville de Paris, mais du coup, comment est-ce que vous abordez ça? Par quel bout vous le prenez? Quelles sont les questions qu'on se pose quand on veut se lancer dans une expérimentation, surtout sur une ville aussi grande, ville, département aussi grande?
Alors, l'expérimentation, ça inclut 2 choses pour moi. Un, le fait qu'on puisse être utile à des personnes à un moment donné, donc des Parisiens en l'occurrence, s'il y a besoin. Donc, on peut tester des choses et puis il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. En tout cas, l'idée, c'est toujours la même, c'est d'essayer d'être utile dans nos manières de travailler, dans nos accompagnements, etc., dans les dispositifs qu'on met en place. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être aussi d'être utile aux institutions dans leur ensemble, d'être capable aussi par cette expérimentation de faire évoluer des postulats de départ, de faire évoluer des politiques publiques, de faire évoluer peut-être des réflexions en cours, en tout cas d'essayer au-delà juste de comment on est utile aux individus, aux personnes, comment est-ce que en expérimentant des choses dans un territoire, c'est aussi utile et ça peut éventuellement être repris par l'État ou par d'autres collectivités, ça peut être dupliqué donc c'est ça l'expérimentation. Alors comment on essaie de travailler? D'abord le premier principe, c'est d'essayer de mettre tous les acteurs qui sont concernés par le sujet autour de la table. Donc on fait un comité de pilotage et on regarde qui est intéressé par le sujet. Ça peut être par exemple pour ce qui concerne donc une expérimentation sur un volet jeunesse, forcément dedans on y met la mission locale, on y mettrait aussi évidemment tous les services sociaux. Mais pourquoi pas dans une certaine mesure quelques clubs de prévention qui interviennent dans l'espace public, pourquoi pas des centres sociaux, pourquoi pas qui sont associatifs, pourquoi pas la CAF ou même la sécurité sociale, en tout cas tous ceux des associations de quartier en fonction, toutes celles et tous ceux qui encore une fois sont intéressés et sont amenés à un moment donné à intervenir sur la question de la jeunesse. On a l'école de la deuxième chance, par exemple, à Paris aussi, qui a une belle implantation. Donc, que ce soit, encore une fois, sur l'insertion professionnelle, sur la question de l'accompagnement à la scolarité, sur le rattrapage de public décrocheur, ou sur des jeunes qui ont juste le souhait de décohabiter, de quitter le foyer familial, qui arrivent pas parce que leur insertion pro commence avec des petits salaires. Donc, tout ça, c'est mettre les gens autour de la table, et puis voir, peut-être essayer de mettre en commun l'existant, donc de faire un peu un point sur l'existant. En général, à Paris, on commence quand même à bien l'avoir, mais c'est bien de se le redire de temps en temps, parce que parfois, on peut avoir des surprises. Il y a des aides nouvelles qui ont pu émerger ici ou là. Il y a des systèmes d'accompagnement qui ont pu auxquels on a pu mettre fin ici ou là. Enfin voilà, donc essayer d'abord de faire un point sur la situation actuelle de ce qu'il existe et de ce qu'il est possible de déclencher pour un jeune qui a entre 18 et 25 ans à Paris. Et puis ensuite, dans un cadre, alors là, qui évidemment est plus politique au sens noble du terme, hein, pas partisan mais politique, d'essayer de redire quel est l'objectif politique que nous avons en matière de encore une fois, d'intervention auprès du public 18-25 ans. Est-ce que notre souhait, c'est lui filer de la thune, sans aller chercher plus loin, savoir ce qu'il va en faire et comment il va vivre, etc. Est-ce que notre sujet, c'est quand même d'aller regarder ce qu'il en fait? Si oui, jusqu'où? Comment est-ce qu'on partage les données les uns les autres? Qui est-ce qui va accompagner la personne? Est-ce que c'est sous forme de questionnaire? Est-ce que c'est sous forme d'entretien individuel? Est-ce que c'est sous forme d'entretien collectif, hein, parce que ça fonctionne bien aussi, ces dispositifs-là? Tout ça, il faut qu'on le partage avec celles et ceux des partenaires qui seront autour de la table au comité de pilotage. Et puis ensuite, ça c'est mon job en ce moment, d'avoir une négociation budgétaire qui permette de voir quel est le volume exact et le cadre de contraintes dans lequel on sera, que j'espère le plus large possible, hein, le moins de contraintes possible, mais bon, ça reste encore quelque chose en cours de discussion et de négociation. Ah oui, et j'ai oublié aussi, très important, l'existant dans Paris, et puis aussi peut-être faire le point, le parangonnage, le benchmark en anglais, de ce qui a été testé ici ou là sur la question des jeunes en général. Je sais que Lyon est en train de faire quelque chose, ou sur la question d'une forme de revenu universel. Grande Sainte en fait partie, mais il y a des pays qui ont testé des choses, là encore, parfois sur des publics, parfois sur des tranches d'âge, parfois sur des zones géographiques, à voir. Ça vaut le coup quand même d'observer un peu ce qui a été fait. Je sais que le mouvement français pour le revenu de base, il travaille beaucoup, donc tout ce qui est fait par le MFRB est très précieux, notamment dans notre capacité à pouvoir regarder et observer ce qui a été fait ailleurs.
Oh merci, ça fait du bien de voir que ce qu'on fait depuis 10 ans, ça sert un petit peu à quelque chose. Alors, en tout cas, ce que j'entends, c'est que avant même de commencer, et encore, tu n'as pas parlé de tout le travail en amont, d'en amont, c'est-à-dire déjà dans la, ben voilà, dans cette majorité que vous avez, qui a gagné les élections municipales à Paris. Donc, on rappelle très très rapidement gauche et écolo, déjà d'avoir l'accord pour cette expérimentation. Donc, on voit déjà toutes les étapes qui se passent avant même de commencer à réfléchir à ce qu'on va faire. Et en même temps, ça m'inspire confiance parce que, comme Gandhi prônait effectivement de ne pas arriver comme un colonisateur dans un terrain avec une idée géniale, à notre sens, et l'appliquer à notre mode, de vraiment partir de ce qui se fait déjà et puis en collaboration avec les gens, puisque de toute façon, à un moment donné, on va leur demander d'agir. Donc, il y a vraiment des fondations à cette expérimentation qui, j'imagine, prennent du temps. Tu as parlé de 2-3 ans et en même temps qui vont faire que les gens vont y trouver du sens. J'imagine que toutes ces personnes-là n'ont pas complètement l'habitude de se retrouver autour d'une table. Donc, ça doit être aussi des occasions d'échange, de savoir qui fait quoi et pour mieux travailler ensemble. Enfin, c'est un terreau de coopération qui est sans doute un peu frustrant parce que ça prend du temps, mais j'imagine en tout cas qu'il doit être indispensable pour la pérennité d'un projet aussi grand que celui-là. Waouh.
Ouais, tout à fait. Et puis, alors, on a l'habitude quand même de travailler avec pas mal de ces partenaires-là, mais sur d'autres sujets depuis 3 ans. Alors d'abord, depuis 3 ans, sur la question de la crise en permanente qui est quand même traversée ce début de mandat municipal avec le Covid, et donc forcément ça nous a obligés à travailler ensemble, mais encore une fois sur des sujets un peu spécifiques, les questions de personnes à la rue, les questions d'accès à l'alimentation, de droits fondamentaux, si je peux dire ça. Là je trouve que ce qui est intéressant à une période comme celle-là, donc à mi-mandat, où la crise est toujours là, mais enfin c'est les effets de la crise qu'on voit, et c'est plus la crise en elle-même, donc ça nous permet de relâcher un peu la pression en tant qu'élu, comme pour les services concernés, de se dire, bon, on vient de courir après la crise là pendant 3 ans, peut-être qu'on peut essayer d'anticiper les choses et de se projeter dans quelque chose de différent, dans quelque chose de, en tout cas moi, que je veux plutôt ambitieux, mais aussi vraiment différent, voilà, dans des pratiques professionnelles, dans des modes opératoires et puis dans des perspectives plutôt positives. On n'est plus à essayer de, encore une fois, de réfléchir à quel Paul on va déshabiller pour habiller quelle Pierre, ou de d'inventer des trucs à brûle pour point parce que la crise est là et qu'il faut inventer quoi. Là, l'idée c'est plutôt de se mettre dans un autre fauteuil, celui de la création de politique publique qui va répondre à un objectif politique qui est celui, encore une fois, de l'inconditionnalité, de l'universalité, de la lutte contre les inégalités, et donc d'être un peu, voilà, de sortir un peu de notre champ qui est par ailleurs usant, qui est celui de la lutte contre les effets des crises successives, mais plutôt d'aller voilà faire quelque chose d'un peu positif. Et ça, je crois aussi que ça peut faire du bien à cette étape-là d'un mandat municipal.
Oui, c'est ce que j'entends, et je pense que ça peut se décliner sur un certain nombre de périmètres et toucher beaucoup plus de personnes. Il y a en même temps cette tension entre l'urgence, parce qu'il y a des gens qui meurent, parce qu'il y a des gens qui souffrent, et c'est maintenant, voilà, et il faut une réponse là tout de suite. Et ce piège qui serait de se laisser avaler par l'urgence après l'urgence et l'urgence d'après qui est déjà là, etc., qui est déjà plus qu'un plein temps, mais de réussir comme vous le faites, comme tu le fais avec toutes les personnes que tu as pu citer et sans doute d'autres, à se poser et à oser être ambitieux, à oser voir plus loin, à oser prendre le temps de construire voilà, tout ce que tu as pu déjà dire rencontre, comme réflexion ensemble avant de passer à la pratique.
Et la majorité municipale est de bonne composition, effectivement, parce que c'est dans le programme municipal de 2020. Et que ce soit le PS, le PC, ELV ou Génération, on était quand même d'accord pour dire qu'on allait le tester. Tout le monde n'est pas convaincu, on va pas se mentir. Mais le principe de l'expérience, de l'expérimentation, de ce qu'il peut en ressortir, notamment dans une ville comme dans les Alpes, enfin, chez les Parisiens, ça intéressait quand même tout le monde. Et ça, je trouve que déjà, c'est déjà une bonne première étape, effectivement, avant de passer ensuite au plus concret.
Alors, si on pouvait glisser un petit mot à la NUPES en se disant que s'ils sont capables de faire ça à l'échelle de Paris, pourquoi pas peut-être faire ça au niveau national dans un programme qui serait commun à la gauche et des oculos. Bon, bref, on dit ça en disant, on ne sait jamais, ça pourrait tomber dans une oreille. En tout cas, ce que j'entends aussi, c'est la question de la transférabilité, le fait de prendre ce temps. Oui, il y a deux choses qui me viennent, c'est effectivement, même au niveau national, que ce soit les syndicats, les partis, les associations, on est forcé à être toujours en réaction pour défendre des acquis, pour essayer de limiter des destructions, etc. Et du coup, on est toujours dans l'urgence et toujours dans une action affolée et affolante. Alors que là, il y a vraiment aussi ce choix d'un autre temps, d'une autre temporalité qui n'est pas à remplacer l'une l'autre, parce que voilà, je pense que les deux sont nécessaires, mais en tout cas de pas perdre aussi cette capacité qu'on pourrait avoir à proposer, donc déjà ne plus seulement essayer de défendre ou de limiter des dégâts, proposer, être ambitieux et prendre le temps de construire quelque chose, même si pour l'instant, là, tout de suite maintenant, l'échelle nationale n'est pas tout à fait prête à partir dans ce genre d'ambition. Mais voilà, ça n'empêche qu'on peut avoir du pouvoir local, on peut le prendre et on peut passer à l'acte, on peut faire des choses sans attendre une onction de nationale ou supérieure. Donc c'est aussi tout cet espoir que vous portez, en tout cas que je ressens en t'écoutant. J'imagine, alors c'est une petite question, mais que vous gardez des traces au fur et à mesure de tout ce qui est fait pour que ce soit transférable potentiellement.
Oui, tout à fait.
Oui. Et est-ce qu'il y a un collectif, parce que tu as cité Lyon, tu as cité Grande-Synthe, est-ce qu'il y a un collectif des villes ou villages qui voudraient se lancer dans quelque chose de similaire?
Pas à ma connaissance.
Ah, mais alors
Mais je pense qu'effectivement, ça doit pouvoir se travailler. On a des collectifs moi, je participe à un collectif des villes accueillantes, par exemple. Je participe à un collectif des grandes villes. Je participe à un collectif, enfin voilà, il y a plein de collectifs différents de villes. Mais pas sur cette question-là, sur la question des aides sociales. On a l'Association des départements de France, qui travaille un peu sur la question des solidarités. On a l'Union nationale des CCAS de France, qui travaillent sur la question de ce que les CASGP sont capables de faire et puis en essayant de défendre encore une fois l'existant. On a fait émerger un petit groupe d'élus plutôt de gauche, je ne vais pas mentir, qui sont mes homologues de Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Rennes, Lille, Nantes. Et on travaille beaucoup sur la question aujourd'hui, sur la question des réfugiés, parce que c'est ce qui nous préoccupe beaucoup en ce moment. Mais probablement qu'on doit pouvoir monter quelque chose d'un peu similaire, notamment avec l'expérimentation que Lyon a faite, ou qu'elle est en train de faire, c'est pas fini, sur la partie jeunesse. C'est une très bonne proposition.
Mais écoute, on va se dire que c'est la genèse d'une grande idée. Je dis ça d'autant plus que dans notre émission, on a reçu donc Clément qui a travaillé sur Grande Sainte. On a reçu aussi Frédéric Bosquet qui nous a parlé de Terra. Donc avec des périmètres très différents. C'est pas les grandes villes. Hein, on est vraiment du petit village à la ville moyenne, à la grande ville, jusqu'à la capitale. Donc au-delà des périmètres, il y a sans doute des choses qui pourraient trouver au moins du soutien, de se soutenir les uns les autres, de dire bon, nous aussi on fait quelque chose et voilà, et ça va dans le même sens. Et aussi, bah voilà, je pense en termes de transférabilité. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, ça fait beaucoup de bien. Après, ouais. J'avais une autre question par rapport aux expérimentations. Est-ce que vous avez déjà réfléchi et même peut-être impliqué les personnes sur cette réflexion, sur les indicateurs, c'est-à-dire parce qu'on a entendu que voilà, il y avait plusieurs ambitions sur l'insertion, sur l'accompagnement des personnes, sur la sécurisation des parcours, etc. Mais est-ce que vous avez déjà des idées sur les indicateurs suivant le périmètre que vous avez choisi, que ce soit par le biais du département ou par le biais de la ville ?
Eh bien, c'est une bonne question. Non, pour l'instant, on n'a pas choisi parce que d'abord, on a un système d'information parisien, de la ville de Paris, qui est déjà très sollicité et c'est le même pour la ville et pour le département, donc ça au moins c'est le même, c'est pas tout à fait le même, mais enfin ils se parlent bien, donc ils sont pas fusionnés mais ils sont complémentaires, mais par contre ils sont déjà très très sollicités et les services informatiques ont du mal à pouvoir faire évoluer vers d'autres dispositifs complémentaires le système d'information actuel. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, on a fait des constats avec nos partenaires institutionnels de l'État, que sont la Sécu, la CAF, la CNAV, Pôle emploi, les impôts, la dématérialisation un peu à marche forcée quand même qui a été faite dans ces services publics, alors avant Covid, mais qui a été accéléré fortement pendant Covid, pose des problèmes de recours au droit en général. Nous, nos services sociaux, mais ça, je sais que c'est partout pareil, hein, sont un peu les derniers à recevoir de manière inconditionnelle les gens, c'est-à-dire qu'il suffit de toucher la porte pour rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas de sélection par l'intermédiaire d'un système d'information pour venir demander un rendez-vous. Il suffit de pousser la porte. Mais du coup, comme on est les derniers à faire ça, les gens, ils poussent la porte pour tout, quoi. Ils poussent la porte pour ouvrir leur droit à la CAF, ils poussent la porte pour qu'on leur calcule leur droit à Pôle emploi.
Il y a une garde de triage, finalement.
Les droits à la CNAV. Donc, forcément, nous, nos services sont pas du tout compétents en la matière. Ça crée, de notre côté, dans les équipes, ça crée beaucoup de frustration parce qu'on n'arrive pas à dépatouiller des situations qui ne relèvent pas encore une fois de nos compétences, et puis ça crée de la frustration du côté des publics qui comprennent pas pourquoi on n'y arrive pas. Évidemment, en plus je leur en veux pas parce que bon, c'est pas à eux de savoir s'il faut pousser telle porte pour avoir tel droit. En vérité, il faudrait faire l'exact inverse, c'est-à-dire que il y a qu'une seule porte à pousser, et ensuite nous, administration, on dépatouille pour savoir si c'est la CNAV, la CAF, la Sécu, Pôle emploi ou les services sociaux de la ville. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et on voit bien qu'on a subi une évolution numérique des services publics qui peut avoir son intérêt. Encore une fois, je suis pas contre, mais qui s'est fait au détriment de l'accueil, qui était fait avec comme seul objectif de faire des économies sur du personnel. Donc ça, c'est quand même un sujet. Et qui ne s'est pas faite en plus en essayant de voir ce qui se faisait chez les autres, de comparer, éventuellement d'avoir des choses qui soient complémentaires, de pouvoir se renvoyer les personnes intelligemment. Voilà, ça, c'est pas du tout le cas. On arrive dans des trucs complètement ubuesques. Par exemple, aujourd'hui, nous, nos services sociaux de la ville de Paris, notre système d'information, il est fait de telle manière que celui de la CNAV est fait de telle, la Caisse nationale d'assurance vieillesse est fait de telle manière qu'en fait, on ne peut pas s'envoyer de pièces jointes. On peut s'envoyer des mails, mais on ne peut pas s'envoyer de pièces jointes.
D'accord.
On ne se cache pas que pour débloquer une situation administrative d'une personne, c'est un peu compliqué de ne pas en arriver là. Ça fait 3 ans que j'essaie qu'on essaye, que je demande aux services informatiques, aussi bien chez nous que chez eux, de travailler. On s'est rencontrés avec le directeur général de la CNAV. On n'y parvient pas. C'est complètement ubuesque. Ça crée là aussi évidemment des situations inextricables. On ne peut pas participer à débloquer des trucs parce qu'on ne peut pas s'envoyer de pièces jointes, parce qu'on ne sait pas, on sait pas, on faudrait qu'on revienne au fax. Enfin, tout ça est complètement délirant. On est en 2023.
Le Minitel.
On se retrouve avec des situations, encore une fois, qui ne sont pas pensées, qui n'ont pas été pensées en fonction de l'intérêt de la personne, mais qui ont été pensées en fonction de l'intérêt de l'institution, sans se poser la question de l'institution d'à côté, et surtout sans jamais imaginer la question du parcours de la personne. La personne, elle rentre par une porte. Ensuite, elle est censée pouvoir avoir une prise en charge dans un parcours global. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Tout est fait pour que la personne abandonne au fur et à mesure. Ça crée du non-recours, ça crée des frustrations, ça crée des abandons. Et du coup, en plus, on retrouve ces mêmes personnes-là, 6 mois, 1 an, 1 an et demi plus tard, au bord du gouffre, de l'expulsion locative, de surendettement, des suites de tout ça non gérées à temps. Alors que si on avait géré ça intelligemment et autant au bon moment, probablement qu'on aurait évité à la personne tout ce parcours du combattant terrible qui souvent termine dans des situations dramatiques. Et donc ça c'est un vrai sujet au-delà de la question de l'universalité, la question de l'accessibilité de nos services sociaux dans leur ensemble. Je mets ceux des villes comme je mets ceux de l'État. La question de du parcours, encore une fois, de la prise en charge dans son ensemble, de la situation de la personne, dans la dignité, ça aussi c'est pas si simple. Il peut y avoir des idées reçues, il peut y avoir des discriminations, du racisme, on le sait, ça existe aussi, donc ça aussi il faut lutter contre, et avec une perspective qui est celle de, encore une fois, d'éviter que la personne tombe dans une situation inextricable qui coûte plus cher à tout le monde,
à
toute la société en général. Ça nous coûte plus cher de loger quelqu'un qui vient d'être expulsé parce qu'il n'a pas pu payer son loyer, parce que, bon, il peut y avoir plein d'explications, et personne ne paye pas son loyer, enfin, personne n'arrive dans cette situation par volonté, d'accord. Il peut y avoir une maladie, il peut y avoir un divorce, il peut y avoir plein de choses, des accidents de la vie, des accidents de parcours. Si on n'a pas les filets qui sont à cet endroit-là, c'est la personne, on la retrouve en expulsion locative. S'il y a des enfants, par exemple, on est obligé de lui payer un hôtel. Donc, on l'expulse de son logement parce qu'elle n'a pas payé son loyer, parce que, voilà, pour des raisons qui, encore une fois, sur lesquelles je ne porte aucun jugement, mais à la fin, on est quand même obligé de lui payer un hôtel parce qu'on ne peut pas mettre des enfants dehors.
C'est intéressant ta façon de nous éclairer aussi, parce qu'on est loin des yaka faucons, de se dire il suffit de prendre tel truc et puis de le mettre en lien avec... Non, il y a quelques fois, enfin, ton exemple des pièces jointes est assez révélateur, que la technique peut déjà être un frein inattendu, plus toutes les organisations, etc. Et de voir un peu les coulisses de l'action sociale, voilà, ça permet... Enfin, en tout cas, moi, ça m'invite à un peu plus d'humilité, peut-être. dans mon discours, donc merci pour ça. On va s'autoriser une petite pause musicale et après on ira chercher les premiers petits pas.
Eh bien, je vous propose une chanson de Riss et Barrier qui s'appelle « Il n'y a plus de sous ». Ça date un peu, celle-là.
Non, mais c'est encore valable. Non.
C'est encore valable, ouais, c'est de plus
encore.
En plus même.
Y'a plus de sous, maman.
Un sous, ça n'est plus un sous comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent.
Trop
autrefois, les sous on les voyait pas souvent, le père les cachait, il faut être prévoyant. On savait si on avait des sous ou pas, en regardant la bosse qu'il y avait sous le matelas. Oui monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire la comptabilité. Même le cul des poules, maintenant, il faut le calibrer. Car si on a le malheur de faire des œufs trop gros, paf, ils vous foutent dans une tranche supérieure d'impôts. Oli, vache, bon sang, bon sourire. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, quand on allait vendre ses pommes de terre, c'était au bistrot devant une chopinée de verre. On se tapait dans la main pour conclure le prix. Paf, parole de nez, cochon qui s'en dédie. Oui, monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, pour vendre le fromage de nos bics, faut se servir d'une calculatrice électronique. Car s'il y a de la hausse dans le dollar américain, et bon, il y a de la baisse dans le reblochon et dans le crottin. Oli, vache, bon sang, bon soir, y'a plus de sous, papa. Y'a plus de sous, maman. Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa. Y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, on se mariait pour faire des enfants, et la fiancée était choisie par les parents. Oh, c'était bien si elle avait de jolis tétons, mais l'important, c'est ce qu'elle mettait dans le corbillon. Ah oh, ouais, monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, la femme doit tenir la caisse. Ma Germaine à moi, c'est la reine du show business. Elle dit que pour s'enrichir, il faut s'endetter. Quand elle l'a dit, ça, le grand-père a ben failli claquer. Oh, on s'en bonsoir, y'a plus de chou, papa, y'a plus de chou, maman. Un chou, je n'ai plus un chou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de chou, papa, y'a plus de chou, maman. Les choux qu'on a chez les choux, mais ça n'est plus de la langue. Y'a plus de chou, papa, y'a plus de chou, maman. Un chou, ça n'est plus un chou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de chou, papa, y'a plus de chou, maman. Les choux qu'on a, c'est des choux, mais ça n'est plus de la langue. Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher, les petits voyages en Suisse.
Vous êtes toujours à l'écoute de Tous Essentiels, l'émission du Revenu de Base sur Radio Campus 106,6 et sur le DAB+, par exemple.
Et donc du coup, on est avec Léa qui coordonne une expérimentation à Paris. Alors, on a vu toutes les limites et tous les petits pas qui sont en cours. Pour l'instant, pas trop visibles, évidemment. Mais il y a déjà des choses qui ont été faites et qui pourraient être transférables à d'autres. Tu nous parlais, Léa, de l'expérimentation zéro non-recours. C'est quoi ?
Dans la perspective de l'expérimentation du revenu universel, mais aussi, moi, dans ma démarche qui dépasse un peu juste le cadre du revenu universel, qui est celle d'un autre rapport aux aides sociales en général, à l'accompagnement individuel, collectif, tout ça. Je suis toujours frappée par les chiffres sur le non-recours aux aides, qu'elles relèvent de l'État, donc qu'elles soient ce qu'on appelle les aides légales, ou qu'elles relèvent du municipal, donc qui sont facultatives. Et on sait qu'on a du non-recours. Alors le chiffre, il y a un observatoire qui existe un peu sur ce sujet-là, notamment sur le RSA, qui permet d'objectiver un peu, mais qui est très macro, donc qui rentre pas dans le détail de ce que c'est le non-recours, des raisons, qui explicite pas toujours très bien quand on est encore une fois élu local, comment est-ce qu'on peut venir essayer justement de lutter contre ce non-recours. Et donc du coup, moi mon objet c'est d'essayer de l'objectiver un peu plus, un peu mieux, pour venir affiner, améliorer nos politiques publiques en matière d'accès aux droits. Et donc on a imaginé il y a 2 ans, donc en mars 2021, on a lancé ce qu'on a appelé le territoire zéro non-recours. Donc on a ciblé le 10e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement assez mixte. Il y a des gens très riches, des gens très pauvres, tout ça cohabite plutôt bien, c'est pas trop gros, c'est 110 ou 120 000 habitants, donc c'est pas un gros arrondissement de Paris, et donc il y a quelque chose de proximité qu'on peut faire. Et puis les acteurs sociaux se connaissent déjà pas mal, parce qu'ils ont pas beaucoup travaillé ensemble, notamment pendant la période du Covid, donc du coup ils avaient des sensibilités à déjà travailler ensemble sur des situations de gestion de crise, et la perspective de les mettre remettre autour de la table sur un autre cadre de travail, ça leur plaisait bien. Donc on a mis autour de la table tous les partenaires là aussi qui ont des questions d'accès aux droits. Donc je les ai cités tout à l'heure, mais la CAF, la CNAV, la Sécu, Pôle emploi, évidemment les services sociaux de l'arrondissement. On s'est mis autour de la table pour se dire bon, est-ce qu'on a du non-recours? Si oui, est-ce qu'on sait le mesurer? Est-ce qu'on sait expliciter les raisons du non-recours? Est-ce qu'on a des publics cibles qui sont particulièrement concernés par le non-recours? Est-ce que voilà? Et on a essayé de mettre tout ça sur la table. Alors là, on s'est rendu compte de plein de trucs. Hein. Ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ça. D'abord, on a des systèmes d'information qui se parlent pas bien. Ça, c'est vrai. Donc, on a du mal à s'envoyer des mails avec des pièces jointes. On a du mal à... Enfin, c'est pas simple. Mais on y arrive quand même. Mais c'est pas simple. Ensuite, on s'est rendu compte que nos statistiques étaient pas du tout basées de la même manière. Donc, en fait, elles sont difficilement croisables. Et on a du mal à croiser nos stats. Parce qu'en fait, ils sont pas faits
avec les mêmes entrées.
C'est pas les mêmes entrées, c'est pas les mêmes. Enfin bon, c'est très différent. Du coup, ils ont commencé à travailler à un tableau statistique qui puisse être commun et partageable pour pouvoir encore une fois essayer d'aller cibler des publics qui seraient dans le non-recours. Et puis, donc ça avance pas mal, c'est assez intéressant. Et puis, ce qu'on a fait aussi, à l'aune, donc, parce que du coup, on a commencé pas mal à dépatouiller, une fois qu'on a réussi à cibler quelques publics dont on constate qu'ils ont des droits, mais qui ne sont pas ouverts, bah, on est allé les voir, on a fait du aller vers. Donc, on a tenu des permanences de la CAF, dans, par exemple, dans des pieds d'immeubles. On a fait du phoning, du rappel de publics par la sécurité sociale ou par la CAF qu'on avait ciblé et tout ça a enclenché un certain nombre de droits quand on regarde l'année 2022 qui est pour l'instant la seule année pleine où l'expérimentation s'est tenue on constate que le nombre d'allocataires RSA, le nombre d'allocataires CAF, le nombre d'ayants droit à la sécurité sociale ou à Pôle emploi a sérieusement augmenté dans le 10e parce que nous avons été un peu proactifs sur la question en ciblant très bien les publics et en étant concrets, encore une fois, dans la démarche de « mais en fait, vous avez ce droit-là qui peut être ouvert, il faut que vous l'enclenchiez, mais en fait, là, celui-ci entraîne ça, qui entraîne ça, la machin, ça ». Et donc, ça a permis de pouvoir se dire que ça fonctionne. Alors, ça pose une question, hein, parce que je vais au bout du truc, c'est celle du budget. C'est-à-dire qu'une fois que vous luttez efficacement, contre le non-recours et que vous n'êtes pas seulement dans l'incantation ou dans le Yaka Faucon, et ben faut les budgets qui vont avec parce qu'en vérité une partie de ces institutions fabrique, construit son budget en comptant et en anticipant le non-recours.
C'est une source d'économie en soi, quoi.
Alors,
je rappelle, parce qu'on en a un petit peu déjà parlé dans cette émission aussi, que là, on parle de 30% des personnes au RSA socle qui ne le demanderaient pas. Donc, c'est énorme. 60% pour le RSA activité, avec la prime d'activité. Et effectivement, l'État ne donne que 70%, du coup, en anticipant les non-recours. On est loin de cette accusation que les pauvres abusent, puisqu'il y a au moins 30% des allocataires qu'ils ne demandent pas. Donc, je t'interromps parce que le temps passe beaucoup trop vite avec toi. C'est un compliment. Du coup, pour ceux qui voudraient en savoir plus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour voir un peu, suivre un petit peu tout ce que vous faites sur Paris?
Le plus simple, c'est le site paris.fr, alors qu'il y a une grosse machine parce qu'on y parle de tous les sujets parisiens et il y en a beaucoup. Et de taper dans le moteur de recherche de paris.fr, les mots-clés, alors ça peut être aide sociale, ça peut être lutte contre l'exclusion, ça peut être revenu universel. Pour l'instant, sur le revenu universel, il n'y a pas grand-chose puisque effectivement, on est en cours de réflexion et de négociation budgétaire, donc on n'y a pas encore mis grand-chose. Mais par contre, sur tout le reste, le non-recours, la lutte contre le non-recours, la dématérialisation, on a une stratégie parisienne d'inclusion numérique qui vient essayer d'accompagner ça. On a un pacte de lutte contre l'exclusion qui aborde toutes les questions de personnes à la rue, on a il y a pas mal de quand même de ressources, donc faut pas hésiter à aller sur le site paris.fr en y tapant les mots clés qui vous intéressent, et puis évidemment dès que Dès qu'on en saura un peu plus et qu'on pourra un peu plus communiquer, toute la partie expérimentale sur le revenu universel viendra compléter le site internet.
Bah oui, on compte sur toi pour nous tenir au courant au fur et à mesure, parce que là, on crée un appel d'air, tu vois, avec cette émission de Radio Campus internationale. Évidemment, il va y avoir de la demande. Non, bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa, de nous avoir consacré cette heure-là. On te rend à tes projets, à tes ambitions précieuses aussi pour nous. Max,
eh bien, rendez-vous le mois prochain.
Ben oui, un lundi, le premier lundi du mois, de 8h à 9h, comme d'habitude.
Bonne semaine, bon mois à vous tous.
À tout bientôt.
Au revoir.